of the Palm d'Or.
Qui a obtenu la Palme d'Or?
The jury is proud to award the Palme d'Or.
La Palme d'Or est attribuée.
Tous les cinémas du monde sur RFI. Sophie Torlotin, Elisabeth Le Quéré.
Voilà, le générique ne trompe pas, nous sommes bien à Cannes pour vous faire vivre la 74e édition du plus grand festival de cinéma au monde. Cela faisait un an et demi qu'on attendait ce moment. Depuis l'annulation l'an dernier pour cause de pandémie de coronavirus, puis le report de l'édition qui aurait dû se tenir en mai, on est donc de retour à Cannes et l'on retrouve ses repères. Voilà, hein, la Méditerranée, le soleil, certes plus mordant sous le soleil de juillet et non du printemps. Et puis on entend de nouveaux sons. Voilà, comme ces cigales qui chantent sur le passage des festivaliers, les festivaliers en smoking ou robe du soir qui croisent les touristes en maillot remontant de la plage. Alors c'est une image nouvelle, hein, tout comme le masque sur le tapis rouge ou le QR code attestant d'une vaccination complète ou d'un test PCR négatif que l'on doit présenter pour entrer dans le palais. Heureusement, on conjure le sort avec le président du jury Spike Lee qui devait officier l'an dernier et a accepté d'attendre un an pour cette 74e édition. Bonjour Elisabeth.
Bonjour Sophie, bonjour à toutes et à tous.
Et puis nous recevons sur le studio de RFI, installé comme chaque année sur le pavillon des cinémas du monde, nos partenaires, la quinzaine des réalisateurs. Bonjour Paolo Moretti.
Bonjour.
La semaine de la critique, Charles Tesson, bonjour.
Bonjour Sophie, bonjour Elisabeth.
La semaine qui célèbre sa 60e édition et votre dernière, Charles, comme délégué. On est très heureuse de vous avoir avec nous. Et puis vous nous emmenez Constance Meyer, la réalisatrice du film d'ouverture de la semaine Robuste. Bonjour.
Bonjour.
Oui, nous déclarons le 74e festival de Cannes.
Ouvert.
선언합니다.
Open.
Voilà, ça c'était mardi soir dernier. Jodie Foster, Pedro Almodovar, Bong Joon-ho, hein, Palme d'Or 2019 pour Parasite, et Spike Lee, le président du jury de cette 74e édition, qui déclarait ouvert le 74e festival de Cannes. Puis Jodie Foster, Palme d'Or d'honneur, faisait sa déclaration d'amour au 7e art. Oh.
Alors, ça fait du bien de sortir, hein? Et nous voilà enfin, après un an sans pareil, réunis dans nos jolies fringues. Et ça vous a manqué un petit peu, le glamour? Ouais, bah, moi aussi. Alors, pendant cette année de transition, le cinéma a été ma bouée de sauvetage. Et j'ai redécouvert les films de Kurosawa, de Scorsese, de Bong Joon-ho, de Pedro Almodovar, de Lina Wertmüller, et aussi de Monsieur le Président, Spike Lee. Les salles étaient fermées, oui, mais le cinéma continuait. Malgré des défis historiques, le cinéma continue sous des formes nouvelles, toujours. Alors après 55 ans de métier, j'apprécie l'évolution de l'art, l'évolution constante, la créativité qui se renouvelle, qui renouvelle notre métier. Et je veux surtout m'inspirer de nouvelles voix passionnées par le cinéma. Cette énergie va tous nous faire redécouvrir la magie des images, l'authenticité des émotions, le bouleversement, la provocation qui se libère de nos veines. Et c'est comme ça que nous nous retrouverons. Je ne perdrai jamais l'émerveillement et la gratitude pour le cinéma. Alors merci beaucoup. Merci.
Ça fait du bien de sortir, hein, proclame avec joie et dans un français parfait Jodie Foster. Est-ce que c'est ce que vous avez ressenti tous les trois, Charles Tesson, Constance Meyer et Paolo Moretti? Charles Tesson.
Moi, je n'ai pas vu de film sur les plateformes parce que je n'ai pas d'abonnement Netflix, ni Amazon, ni rien. Mais j'ai vu quand même beaucoup de films. Par contre, oui, de retrouver la salle, une émotion du public dans la salle et puis encore plus peut-être à l'issue d'une projection comme pour celle de Robuste ou celle du Sardinki Berlin hier. L'émotion du public qui reste, qui applaudit et qui partage collectivement une émotion autour d'un film, je trouve ça magnifique et unique.
Constance Meyer, donc vous qui avez projeté ici votre premier long métrage, hein, à la Semaine de la Critique, Robuste.
C'est assez fascinant et en fait ce qui est incroyable, c'est de ressentir
les émotions des gens à côté, on les sent respirer, on les sent rire, on les sent émus, c'est magnifique.
Et vous, Paolo Moretti, à la quinzaine?
J'ai rejoint absolument Charles, sauf que moi j'ai plusieurs abonnements. Et donc j'ai tout vu, évidemment, non seulement voilà, les films pour cette longue sélection, processus de sélection de la quinzaine, mais aussi justement pour avoir une idée un peu plus large de quel tournant ça pouvait prendre. On a longtemps discuté de les plateformes, les nouvelles formes de diffusion qui pourraient remplacer le cinéma. Et finalement, en revenant ici, je pense qu'il est plutôt clair pour tout le monde que rien ne peut remplacer ces genres d'émotions qu'on vit dans la salle tous ensemble.
Oui, puis pas seulement l'émotion, c'est important, de la salle dont tu parles, Paolo, mais c'est aussi diffusion, ok, mais c'est aussi les outils de production. Et là, le travail qu'on fait ensemble, c'est aussi privilégier une sorte d'artisanat et de diversité en termes de production au niveau du court-métrage. Et ce travail-là est unique, on est les seuls à le faire avec d'autres festivals, et il est capital. C'est le garant d'une vraie diversité artistique, ce que les plateformes ne font pas.
Et vous disiez, Paolo, que vous aviez vu beaucoup de films. Vous en avez vu encore plus cette année que les autres années?
Non, disons qu'il y a plus ou moins le même nombre de films qui ont été soumis. On a reçu 1400 longs-métrages pour la sélection de la quinzaine de cette année.
Ah, mais ça, c'est fou. Ça veut dire qu'en fait, à part la France, le reste du monde s'est arrêté de tourner?
En fait, non. Disons qu'il y a des tournages qui ont ralenti, mais qui ne sont pas vraiment arrêtés. Donc du coup, la quantité de films soumis rejoint de très près la quantité de films soumis en 2019. Donc il n'y a pas eu ces blocages qu'on craignait, en fait.
Cet embouteillage. Ouais. Charles Tesson, pour vous, c'était pareil à la semaine?
Oui, parce que comme le disait Paolo, il y avait des films. Vu la situation, la crise sanitaire l'an dernier, ce qui se passait avec Cannes, on a pris le temps de finir les films, d'une part de le finir en tournage, parce qu'il y a des tournages qui ont été, des films ont été tournés avec deux ou trois interruptions. Donc il y a eu ça, ils ont pris le temps de finir. C'est pour ça que cette année, en 10 ans, c'est la première fois que j'ai vu autant de génériques de fin dans les films qu'on nous a soumis. C'est un record absolu.
C'est vrai, je confirme.
Non, tu confirmes, ouais. Et puis il y a des pays où ça a moins tourné, l'Amérique latine, d'autres où ça a plus tourné. La Chine, on a vu deux fois plus de films que d'habitude, par exemple. Donc c'est variable. Et en France, oui, ça a beaucoup tourné, ça on l'a vu, parce que on le voit ici avec le nombre de films français à Cannes, est très bon.
Alors, on sait bien qu'on n'est pas encore évidemment complètement revenu à la normale. Par exemple, il n'y a pas de fête autorisée sur les plages. Il y a des rendez-vous donc réguliers pour surveiller la situation sanitaire. Néanmoins, le festival, il est bel et bien lancé. Pour la sélection officielle, pour la compétition, 24 longs métrages, c'est un peu plus que d'habitude, concours pour la Palme d'Or, dont deux du continent africain, Lingui du Tchadien Mahamat Saleh Haroun et Haut et Fort du Marocain Nabil Ayouch. On reviendra avec vous, Elisabeth, sur ce début de compétition dans une trentaine de minutes. Mais tout d'abord, avant de rentrer dans le vif du sujet, une pause musicale avec un titre tiré du film d'ouverture Annette, flamboyante tragédie musicale de Léos Carax, avec Adam Driver et Marion Cotillard chantant des titres des Sparks. One, two, three, four.
So may we start. So may we start. It's time to start. My time to start. They hope that it goes the way it's supposed to go. There's fear in them all, but they can't let it show. They're underprepared, but that may be enough. The budget is large, but still, it's not enough.
So may we start.
May we start. May we not start.
So may we start.
May we start. May we not start.
It's time to start.
May we start. May we not start.
My time to start.
May we start. May we not start.
We fashion a wall, built just for you. A tale of songs and fury, with no taboo. We'll sing.
Yes, in minor keys.
And if you want us to kill,
original des Sparks, So May We Start, commençons, hein, qui a lancé de belle manière le festival, la sélection officielle du festival de Cannes. Je vous voyais un peu, c'est vrai que c'est très dansant, hein, tous les trois, Paolo Moretti, Constance Meyer, Charles Tesson. Vous avez vu Annette?
Oui.
Oui.
Non.
Mais vous comptez, Constance, vous irez le rattraper en salle.
J'irai voir au cinéma, exactement.
Alors, il y a une petite tendance musicale à Cannes cette année. Ça me permet de faire juste une transition avec la quinzaine, Paolo Moretti, puisque vous avez sélectionné un ovni littéralement franco-américano-rwandais. C'est une comédie musicale, Neptune Frost ?
C'est américano-rwandais. Je ne dirais pas que c'est une comédie musicale. Je pense qu'il échappe tellement à toutes les définitions possibles que la seule façon de le définir, c'est de venir le voir.
Je reviens du coup tout d'abord à la sélection de la quinzaine, Paolo, parce que je sais que vous êtes pressé et que vous allez sans doute nous quitter avant la fin de l'émission. C'est vraiment l'esprit de la quinzaine, le fait de découvrir comme ça un peu des films qui échappent à toute catégorisation.
C'est l'une des missions de la quinzaine telle qu'on l'interprète, dans le sens que voilà, on se réfère pendant tous les processus de sélection, on dialogue constamment avec les passés et l'histoire de la quinzaine, sans essayer de la reproduire, mais en essayant de lui redonner une nouvelle actualité et une pertinence par rapport à l'évolution qui est sur tous les fronts, autant l'évolution du cinéma, de ses dynamiques, l'évolution du Festival de Cannes, du paysage festivalier général. Donc on pense toujours justement à cet héritage et à quelle pertinence peut avoir actuellement. Et dans Neptune Frost, comme dans d'autres films de la sélection, voilà, on a trouvé cette pertinence qu'on invite aussi les spectateurs à rechercher. Il peut y avoir des découvertes aussi dans les troisième, quatrième films et ainsi de suite. Et aussi, il y a des réalisateurs, des réalisatrices qui ne cessent pas de se réinventer ou de réinventer des nouveaux codes. Donc, la quinzaine est naturellement sensible à ces genres de mouvements.
Le film d'ouverture de la quinzaine, c'était Ouistreham, Emmanuel Carrère, avec Juliette Binoche dans le rôle d'une autrice, puisque c'est l'adaptation du livre de Florence Aubenas. Donc là, c'est une écrivaine qui s'installer à Ouistreham et partager le sort des travailleuses précaires, hein, sous couverture. Là, avec ce film-là, bon, outre qu'il y a une star au générique et que voilà, c'est intéressant de la voir confrontée dans cet univers-là avec des noms professionnels, c'était aussi la fibre sociale.
Ce qui nous a intéressé du film d'Emmanuel, c'était justement, il joue sur deux codes différents en termes de mise en scène. Il choisit volontairement une mise en scène relativement classique, mais en fait, ce qu'on a trouvé de dramatiquement contemporain, c'est les questionnements qui appartiennent aussi à tout son œuvre littéraire sur les principes de vérité et sur les dynamiques éthiques liées à cette recherche et à l'interaction avec la fiction. Les livres, c'est la mise en abîme du principe de vérité, commence avec les livres de Florence Aubenas, où elle utilise la fiction d'elle-même pour aller rechercher une vérité plus profonde, qui est seulement cette fiction justement rend possible finalement. Et Emmanuel fait une opération différente, des réécritures de cette opération. Donc il s'inspire, c'est une libre adaptation du livre de Florence Aubenas. Il introduit une partie de fiction, il renonce à la prétendue neutralité du livre et il s'investit lui-même ses questionnements éthiques sur les limites de sa recherche de vérité. Donc du coup, il y a quelque chose d'extrêmement contemporain au-delà du fait que, en effet, pour nous, c'était un film particulièrement réussi avec une Juliette Binoche, qui est par ailleurs à l'origine du projet. Le film naît grâce à la volonté de Juliette Binoche. C'est Juliette Binoche qui a fortement voulu que le film se fasse.
Mais Florence Aubenas ne voulait pas, elle a été sollicitée plusieurs fois, et c'est grâce à l'insistance répétée de Juliette Binoche que le projet a pu se faire.
Et que c'est Florence Aubenas et Juliette Binoche qui, à un moment, ont évoqué les noms d'Emmanuel Carrère comme peut-être les seuls réalisateurs qui auraient pu, justement, qui avaient une connexion particulière avec cette matière et qui auraient pu mettre en scène le film, et c'est comme ça que le projet est né.
Toujours, Charles et Constance, mais on reste un peu avec la quinzaine puisque Paolo est notre invité pressé. Toujours sur alors je ne sais pas si on peut parler de fibre sociale, mais cette année, le Carrosse d'Or était remis à Frédéric Wiseman, grand documentariste
américain, grand documentariste des institutions américaines. Là, le choix, c'était le choix de la SRF, hein, Société des réalisateurs de films, à mais laquelle la quinzaine est associée.
Ça ne nous a pas déplu du tout. On était vraiment heureux et honorés d'accueillir Frédéric. C'était un moment extrêmement émouvant de la remise du prix. Il a reçu une standing ovation de la salle de la quinzaine et on sentait qu'il y avait une connexion particulière quand les films qui étaient réalisés, les films de 8 minutes sur l'ensemble de sa filmographie, je pense que tout le monde à un moment pouvait trouver une relation avec un ou plusieurs films de la filmographie de Frédéric qui est impressionnante, qui ne ressemble à aucune autre. Et c'était une façon, je pense, extrêmement pertinente de mettre en perspective les films qui viendront dans les prochains jours.
D'une manière générale, alors je sais qu'on la pose un peu chaque année, mais je voulais savoir si cette année ça a bougé ou pas. Comment vous faites, Charles et Paolo, pour composer votre sélection? Parce qu'on vous propose des films. Je sais que vous discutez entre vous, en fait, beaucoup un peu en bonne intelligence.
On discute, et puis aussi on discute par l'intermédiaire de ceux à qui nous soumettent les films, à savoir les distributeurs, les producteurs, vendeurs qui échangeons. Donc on a ces informations-là. Mais c'est vrai qu'on nous parle souvent des films qu'on se dispute, mais on oublie de parler des films qui trouvent leur lieu de manière sereine. Parce qu'il y a un processus de sélection, on avance sur des films. Tel film, eh bien, on l'aime, mais il faut apporter une autre couleur dans la sélection, ce qui fait qu'on a moins envie d'y aller. Puis pour une autre sélection, ben, c'est ce qui leur convient à ce moment donné. Donc c'est un cheminement, une sélection. Donc c'est pour ça que ce processus-là est passionnant à observer par rapport à la façon dont les films sont désirés et comment ils circulent, quoi. C'est agréable.
Parce que c'est quoi une bonne sélection, justement?
Non,
Ça change chaque année
C'est comme disait Charles, en fait, il y a des films qui trouvent plutôt naturellement leur place. En fait, évidemment, ça passionne les médias, l'idée qu'on se dispute tous et qu'il y a... Mais finalement, ça arrive, c'est très, très minoritaire. Enfin, ça arrive peut-être sur un film, et en plus, on ne se les dispute pas. On se limite à déclarer notre amour pour le film, articuler un peu pourquoi ça serait important pour nous et de les présenter dans notre sélection. Et après, les choix, les derniers mots, ça appartient aux ayants droit. Donc, en fait, il n'y a jamais de confrontation directe entre nous. Et je pense qu'on est tous là. Et je me permets d'inclure Thierry Frémaux dans l'intérêt du film et pour servir le film.
Absolument.
Donc, c'est vraiment un principe commun.
Oui, c'est important, c'est-à-dire que Cannes préserve sa diversité éditoriale à travers différentes sections et que, je dirais, l'esprit, non pas de compétition, mais d'émulation, aille dans l'intérêt supérieur général. Je pense qu'on est suffisamment lucides l'un et les autres pour aller dans ce sens-là.
Vous, Charles,
oui.
Vous êtes un grand critique de cinéma, vous avez été rédacteur en chef des cahiers du même nom. C'est le moment de regarder un peu dans le rétroviseur, j'imagine. Qu'est-ce que ça vous a apporté? Qu'est-ce que ça apporte quand on est journaliste et critique de cinéma de diriger une section parallèle d'un si grand festival?
C'est passionnant.
Ça a changé votre regard sur les films?
Oui. Comme je suis très confucius de nature, donc apprendre ma vie. Donc être critique, c'est important. D'avoir un regard critique sur le cinéma et à travers le monde. Mais d'être sélectionneur est un autre travail et diriger une sélection aussi. Ça met le regard sur le cinéma, à un autre endroit. C'est-à-dire que quand vous avez un producteur qui vous demande un retour sur un film, il faut restituer, je dirais, une expérience concrète du film. Pas seulement dire c'est un grand film sûr, ok, ça c'est des idées qui sont fortes, qui font la force de la critique. Mais quand on est sélectionneur, on parle des films différemment. Bien sûr que le regard critique est essentiel dans la façon de voir les films et d'en parler. Mais aussi, on parle à un producteur dont on est le premier spectateur. Il sait ce qu'il a voulu mettre, ou ce que le cinéaste a voulu mettre, et comment tout d'un coup le film a été perçu et compris, c'est capital. Donc ça, cet échange-là est différent de l'échange critique, mais bien évidemment que le regard critique, la connaissance du cinéma mondial, savoir que tel film est très bon, mais qu'il y a déjà eu pas mal de films comme ça, savoir que celui-ci, ben, ça tisse des nouvelles lignes dans une cinématographie ou dans un état du cinéma mondial, ce fond-là, bien sûr, est essentiel.
Et alors, vous avez choisi le premier long métrage de Constance Meyer, Robus, pour ouvrir cette 60e édition.
Oui, oui.
Alors, pourquoi?
C'est un coup de cœur, ça s'est fait très très vite. On l'a vu avec le comité à Unifrance. On a adoré. Je l'ai dit tout de suite, justement, à la productrice Isabelle Madeleine et au distributeur Michel Saint-Jean Diafana. Un vrai enthousiasme. Et puis, ça s'est fait très, très vite. Et c'est délicieux et agréable. C'est ce que disait Isabelle Madeleine, etc. Ça nous a évité un mois d'angoisse pour savoir si le film serait sélectionné ou pas. Non, le film est magnifique et formidable. Je pense que je vais laisser Constance en parler. Puis, c'est un petit clin d'œil parce que c'est la 60e édition. Mais on fait fort de la semaine. On fait une pierre de coup, parce que c'est aussi les 60 ans de la semaine. Parce que la semaine énerve 62. Et fait aujourd'hui ses 60 ans, parce qu'en 61, une cinéaste américaine, indépendante new-yorkaise, Shirley Clarke, est venue présenter un film single. Et comme ça a très bien marché, ils nous ont dit, au syndicat de la critique, revenez l'an prochain avec une sélection. J'adore le clin d'œil, c'est une réalisatrice, c'est un premier film qui vient célébrer nos 60 ans.
Donc Robuste avec Gérard Depardieu et Déborah Lukumuena.
C'est quoi votre nom déjà ?
Aïssa.
Ah, c'est joli, Aïssa. Vous pouvez vous installer là-bas, c'est l'endroit de Lalou.
Ok.
Il vous a donné les clés ?
Oui, j'ai tout, il m'a tout donné.
Et vous conduisez bien ?
Oui.
Vous arrêtez pas au feu orange ? Non, parce que j'aime pas qu'on s'arrête à l'orange, on s'en fout.
D'accord.
Robuste, Constance Meyer, c'est un qualificatif qui peut s'appliquer aux deux personnages principaux de votre film. Gérard Depardieu qui incarne Georges, un acteur fatigué, très seul, qui va beaucoup s'appuyer sur Aïssa, une jeune agente de sécurité campée par Déborah Lukumuena. Constance Meyer, vous avez fait comment pour convaincre Gérard Depardieu de jouer de votre premier long métrage ?
Alors, Gérard, je le connais depuis très longtemps. Donc, je l'ai rencontré à l'époque, j'avais une vingtaine d'années, je travaillais dans le théâtre. Et après, j'ai fait une école de cinéma à New York, la Tisch School. D'ailleurs, c'est Spike Lee qui est le directeur de l'école, enfin, le directeur artistique.
Vous allez le croiser ici, non ?
Non, je pense pas. Je sais même pas s'il se souvient de moi. Il y a beaucoup d'élèves qui traversent cette école, c'est un programme qui dure 3 ans. C'est un master de cinéma et là-bas j'ai écrit un film en pensant à Depardieu et à Marina Foïss. Et puis j'ai tourné ce premier court-métrage avec eux. Et puis ça a été un peu le début d'une collaboration entre Gérard et moi.
Voilà. Vous l'avez apprivoisé.
Je sais pas, je crois pas que c'est quelqu'un qui peut être apprivoisé. Par contre, c'est un acteur, c'est un vrai acteur. Il aime jouer, il aime être dirigé, il aime tourner. Donc c'est pas si étonnant.
Mais vous jouez avec son image, avec l'image qu'on a de Gérard Depardieu, avec le fait qu'on puisse dire qu'il est une oreillette, par exemple, parce qu'il n'apprend pas ses rôles. À un moment, ouais. Il y a comme ça un clin d'œil dans le ouais. film. On le voit justement apprendre ses répliques. Ouais. C'est assez fascinant de voir l'effet miroir.
Oui, c'est quelque chose que j'ai pas forcément intellectualisé au moment de l'écriture, comme j'ai beaucoup observé Depardieu sur des tournages et un tout petit peu aussi dans la vie. J'étais un peu imprégnée de sa vie, mais après c'est des séquences que j'ai inventées, que j'ai écrites en prenant en compte. En fait, ce qui a guidé mon écriture, c'était de me dire quel plaisir va-t-il prendre à dire ces mots. À jouer ces situations, j'avais en tête le plaisir que prendraient les acteurs à jouer. Et c'est une des dimensions un peu qui a guidé l'écriture du scénario. Alors après, bien sûr, on peut me dire c'est Georges, mais c'est Gérard, etc. Moi, je pars du principe que à partir du moment où on écrit, on met en scène, il y a une équipe de film, etc. C'est forcément de la fiction. De toute façon, c'est deux personnages qui se rencontrent. Ce sont deux personnages totalement fictifs qui ont été inspirés cependant par mon désir de filmer Depardieu et Déborah Lukumuena.
Mais c'est deux corps aussi que
oui.
vous filmez,
bah oui,
un corps blanc,
oui.
un corps noir.
Ouais, tout à fait.
Que l'on voit parce que Déborah Lukumuena, son personnage fait de la lutte.
Oui.
C'est une très belle idée aussi.
Ouais, elle fait de la lutte. Elle est agent de sécurité, donc elle est responsable de la sécurité. De certaines personnes et dans le film de Georges et elle est lutteuse et voilà c'est un personnage qui utilise sa force et son corps et qui en fait son métier donc ça m'intéressait d'avoir ce personnage qui utilise son corps et sa force et qui petit à petit dans le film abandonne un peu ces fonctions là.
Et il fallait trouver une jeune comédienne qui puisse tenir la route face à ce monstre sacré de Depardieu. Mission accomplie pour Deborah Lokomoena.
Il a 250 films, 50 ans de carrière. Il a commencé à 20 ans, un truc comme ça. Donc ça lui fait 50 ans de carrière.
Alors que vous, là, c'était votre troisième ou quatrième long métrage.
Oui, c'est mon troisième, quatrième long métrage. Je suis vraiment un schtroumpf à côté de lui. En fait, oui, bien sûr, moi, quand on nous a annoncé le projet, j'étais de prime abord très impressionnée parce que j'ai toujours voulu tourner avec lui, parce que c'est le monstre que c'est. Mais en le rencontrant, donc moi, je l'ai rencontré chez lui. Et il avait cette classe, en fait, de ne pas jouer de ça. Et rapidement, il m'a fait comprendre que dans ce projet, j'étais son égale et qu'on avait tous les deux cette mission de raconter cette belle histoire parce qu'on aime tous les deux profondément la réalisatrice Constance Meyer et qu'on avait envie de lui de raconter ça de la manière la plus juste et belle possible.
Voilà, Deborah Lokomoena, qui est une jeune actrice de 26 ans, qu'on a découvert ici à Cannes en 2016 dans Divine. Elle a d'ailleurs eu le César du meilleur second rôle féminin et elle fait le pont entre vos deux sections, Charles Tesson et Paolo Moretti, non ? Parce que Paolo, elle est aussi à l'affiche d'Entre les vagues, qui est sélectionnée à la quinzaine.
Tout à fait, absolument, qui est un deuxième long métrage, du coup. Et en effet, je pense qu'elle amène une énergie incroyable au film, un couple avec sa partenaire, Suelia. Et voilà, c'est un film absolument énergisant et assez unique dans sa conception. Anaïs Volpé est une cinéaste autodidacte qui a une approche extrêmement intuitive et très efficace de son cinéma, de ses codes de narration, auquel il associe cette photo électrisante de Sean Price-Williams dont on se souvient pour Good Times notamment. Donc c'est une association d'ingrédients qui donne je pense un film français unique dans son genre.
Avant de vous laisser partir, Paolo Moretti, Charles Tesson, parce que je sais que vous êtes pressé, c'est toujours le cas à Cannes, on a toujours une demi-heure de retard en fait surtout. Est-ce qu'il y a quand même une des tendances générales qui se dessinent de vos sélections, soit en thématique de ce que les films que vous avez choisis expriment, ou en esthétique ?
Par exemple, dans la sélection officielle cette année, jusqu'à présent, on est très étonné, il n'y a pas de films sociaux. Alors c'est toujours un peu une constante de la compétition cannoise. Alors vous, est-ce que c'est pareil pour vos sections réciproques, Paolo Moretti ?
Je peux y aller, c'est comme tu veux. Hein. Non mais ça, c'est une bonne remarque, parce qu'on a un certain archétype du film social qui veut englober une réalité, un milieu, alors que dans les films qu'on a par rapport à la semaine, et puis je pense qu'on a pas mal de films, ça parle beaucoup d'une articulation intime entre une mère et une fille, entre un acteur et une agent de sécurité. Mais que tout d'un coup, le deux amène un monde autour d'eux. Et c'est cette structuration à partir de l'intime qui ramène la réalité du monde. Beaucoup de films sont comme ça, puis que le corpo, etc. Et c'est frappant de voir comment tout d'un coup, on reprend le film social, je dirais, à l'envers. C'est très intéressant.
Oui, en effet, nous, ça part plutôt dans tous les sens. C'est difficile vraiment, même par rapport à 2019, de faire cet exercice, de trouver un fil rouge ou un élément commun ou un élément manquant, je dirais, dans la sélection. Je pense qu'en fait, c'est l'une des choses aussi qui nous tient très à cœur, comme disait Charles tout à l'heure, c'était de restituer cette richesse, cette complexité en fait du cinéma contemporain. Et donc on essaye justement de trouver la déclinaison contemporaine de chaque genre ou sous-genre ou sujet en fait. Par exemple, voilà, on parlait tout à l'heure de Wistreham, qui a évidemment un fond social, mais il a aussi beaucoup plus que ça. Il n'est pas seulement frontal, il essaye d'affronter la question, l'argument, mais en travaillant en profondeur les codes. Et en fait, cette.
Et la question de la trahison.
Absolument, absolument. De la trahison aussi par rapport aux idées reçues, aux codes établis, et voilà, ça fait partie, je pense, de l'histoire de l'ADN de la quinzaine des réalisateurs, de la semaine de la critique aussi, en grande partie. Donc en fait, c'est ces travails-là. Donc les films sociaux, en effet, il n'est pas très fortement représenté, mais il y a des questions sociales qui rentrent dans tous les films avec une déclinaison très inattendue et contemporaine.
Vous, Charles, c'est votre dernière sélection ?
Oui.
Vous y avez... vous l'avez préparé différemment du coup des précédentes ou pas? Vous teniez, ça aurait dû être l'an dernier, c'est ça, mais vous teniez à rester pour les 60
oui,
ans.
Pour, oui, non, mais c'était prévu quand même depuis quelques années que le mandat se termine avec la 60e, tout comme pour le précédent délégué, Jacques-Christian Bergeon, il s'était avec la 50e. Non, c'est bien, parce que c'est bien, parce que je suis content surtout que le cinéma et les films soient au rendez-vous pour pouvoir faire une édition qu'on estime belle, et je pense qu'elle est, pour pouvoir partir, je dirais, bien, et laisser surtout la transmission. C'est ce qui est le plus important aussi, parce que celle qui va me succéder, Saba Kahane, a été 5 ans au comité de sélection avec moi. C'est une autre génération, mais c'est important aussi, on est des critiques. C'est
elle a une trentaine d'années, je crois.
Voilà, de transmettre, et puis que la transmission se fasse dans les meilleures conditions, et puis qu'elle, par rapport à sa cinéphilie, apporte d'autres directions, parce que la semaine, mais sa force, c'est que c'est de jamais avoir changé d'un iota sa mission. Premier et deuxième film, ça fait 60 ans qu'on fait ça. Et parce qu'on n'a pas changé de mission et de règles, on est, je dirais, à l'écoute et à l'observation des changements du cinéma. Mais aussi, il faut que les personnes qui incarnent la fonction aussi soient en mesure de faire varier, de faire bouger, comme un bateau qui avance, etc. Pas toujours droit, mais que... Et c'est ça qui fait ce renouvellement aussi au sein de la déléguée, qui permet aussi d'avancer autrement dans le cinéma. Voilà.
Merci Paolo Moretti et Charles Tesson. On vous laisse, je sais que vous avez une obligation officielle, il faut que vous partiez. Vous restez un peu avec nous, Constance Meyer ?
Oui, oui.
Tous les cinémas du monde sur RFI.
Constance Meyer, c'est votre premier long métrage, un robuste, ouverture de la semaine de la critique, coup d'essai, coup de maître. C'est votre première participation à Cannes. Alors j'imagine que vous devez être très prise, évidemment, hein, la promotion du film. Mais est-ce que vous avez le temps et l'envie d'aller voir des longs métrages ailleurs, soit à la semaine de la critique, soit à l'officiel ?
Oui, oui, j'ai très envie. Ce matin, j'ai vu un film sublime de Jonas Carpignano qui s'appelle Akira. À la quinzaine. Hier soir, j'ai vu le film de Joachim Trier. Voilà, et je vais continuer.
Julie en 12 chapitres.
Hein. Voilà.
Ça vous a plu ?
Énormément. C'est sublime.
Vous nous le conseillez ?
Ouais.
Et vous allez continuer, là, puisque vous restez jusqu'au 13 ?
Oui, enfin, je fais une petite pause. Je pars voir mon fils, que je n'ai pas vu depuis plusieurs jours, et je reviens.
Et donc, avec cette envie de cinéma, parce que quand on est réalisateur, réalisatrice dans une sélection, on a quand même très envie de voir les films des confrères, des consoeurs.
Oui, ça fait bah, disons, une fois notre propre projection passée, je crois que c'est vraiment le plaisir le plus grand de ce festival, c'est de découvrir des films, d'en voir plusieurs par jour et de se biberonner, surtout après l'année qu'on vient de passer, quoi.
Robuste, donc Gérard Depardieu, Déborah Lecoumouena, présenté ici à la Semaine de la Critique. Il sort bientôt en salle ?
Je ne sais pas encore, parce qu'il y a tout cet embouteillage dû à la fermeture des salles. Je pense plutôt, sans dire de bêtises, mais plutôt début 2022.
Donc on aura l'occasion de vous recevoir pour en parler plus longuement. Merci beaucoup.
Merci.
Constance Meyer. On va parler de la sélection officielle des premières pépites en compétition avec vous, Elisabeth, juste après ce titre de Vanessa Paradis, Be My Baby, que l'on entend dans le film israélien de la compétition, Le Genou d'Aed, donc en lice pour la Palme d'Or.
Can you tell me?
voix susurrante de Vanessa Paradis dans le désert du Néguef. C'est la bande originale du nouveau film de Nadav Lapid, Elisabeth, hein, le genou d'Aed, un film qui a embrasé la croisette et, comme on dit, fortement clivé les festivaliers.
Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Et puis, c'est aussi le moins qu'on pouvait attendre d'un cinéaste aussi surdoué que révolté contre son pays. Nadav Lapid, il y a 2 ans, en 2019, il raflait l'Ours d'Or au Festival de Berlin avec Synonyme, qui racontait ce qui était le portrait d'un jeune Israélien qui ressemblait fortement au réalisateur venu à Paris pour échapper à la culture mortifère de son pays. Dans ce nouveau film, il va encore plus loin, hein, puisqu'il y est dit que Israël est un, je cite, « Israël est un poison mortel pour ses citoyens ». Alors Ahed, la jeune femme du titre, bien sûr c'est la militante palestinienne Ahed Tamimi qui avait giflé un soldat israélien, et suite à ça un député de la Knesset avait appelé sur Twitter, hein, on s'en souvient, à ce qu'on lui tire une balle dans la rotule, d'où le titre, hein, « Le genou d'Ahed ». Mais au-delà, le film raconte les avanies d'un cinéaste qui est invité à présenter son film dans un petit village aux confins du désert, hein, du désert du Néguev, à condition de s'engager par écrit à ne pas aborder des sujets dérangeants. C'est le cœur d'un film explosif, dans tous les sens du terme, Sophie, où le cinéaste règle ses comptes avec le gouvernement israélien et son ministre de la Culture, hein, qui tente d'étouffer, depuis plusieurs années, on le sait, les voix dissidentes. C'est un film complètement virtuose, survolté. Le travail sur l'image et sur le son nous a époustouflé toutes les deux. Alors c'est vrai que d'habitude, la fiction de gauche appelle toujours une mise en scène un peu molle, comme si la forme était appelée à être asphyxiée par le sujet. Ici, c'est l'inverse. Enfin, c'est pas l'inverse. D'ailleurs, le sujet est explosif, la forme aussi. On a affaire à une proposition de cinéma d'une audace folle, mais qui est constamment disgracieuse, dissonante, comme si tout était fait dans ce film pour heurter les sens du spectateur.
J'abonde à 100%. C'est le deuxième électrochoc du festival après Annette, le film d'ouverture. Une cantatrice d'opéra, Marion Cotillard, tombe amoureuse d'une star du stand-up, Adam Driver. Ils ont une petite fille, Annette. Jusque-là, tout va bien. Et puis, la carrière de l'une explose, tandis que celle de l'autre décline. Et voilà que, par jalousie, une nuit de tempête sur leur yacht privé, Driver tue Cotillard.
Et oui, sauf que le genou d'Ahed, je le disais, semble avoir été conçu pour hystériser la croisette, hein, autant parce que le film, la violence de ce que dit le film, et puis la violence de la forme. Là, Annette semble vraiment avoir été conçue, hein, pour le Festival de Cannes, avec son couple de stars, vous le disiez, Sophie, Adam Driver, Marion Cotillard, sa musique, Griffé Sparks, et puis bien sûr l'aura, hein, de cinéaste maudit qui entoure Carax. Voilà, c'est une comédie musicale, alors, qui ne fonctionne pas tout à fait d'ailleurs. Moi, j'aurais des réserves à faire sur certains, pas tous les morceaux, mais certains des morceaux des Sparks. C'est en tant que comédie musicale, je ne sais pas si ça fonctionne à 100%, mais en tout cas, on est complètement emporté par la puissance et la beauté inouïe de la mise en scène de Léos Carax, hein, qui confirme, hein, qu'il est un cinéaste de génie avec ce nouveau film.
Et puis en compétition, le premier film africain de cette sélection, Lingui, du Tchadien Mahamat Saleh Haroun. N'Djamena Amina élève seule sa fille de 15 ans, Maria.
Oui, et son univers qui est déjà très précaire, hein, s'écroule quand elle s'aperçoit que sa fille Maria est enceinte. Donc voilà, Lingui met en scène la détresse, hein, de cette jeune femme face à une grossesse non désirée dans un pays, le Tchad, où l'avortement est interdit. C'est un film magnifique, avec une ligne très pure, hein, puisque c'est le parcours du combattant de ces deux héroïnes qui doivent trouver 1 million de francs CFA, puisque c'est la somme que coûte au Tchad un avortement clandestin. C'est un film très réaliste et précis, puisque Amina vend des sortes de petits braseros qu'elle fabrique avec des rebuts de pneus, et on sait exactement combien elle les vend, quel bénéfice elle fait, du coup combien elle doit en vendre pour arriver à payer la somme colossale de 1 million de francs CFA. Bien sûr, je crois que j'avais calculé quand j'avais vu le film, c'était 1000 à peu près, donc c'est vraiment, ce serait le travail de toute une vie. Et moi, j'aime beaucoup qu'on nous dise pas juste voilà, cette femme est pauvre et puis ça reste un peu dans le grand ciel des idées. Là, Mahamat Saleh Haroun pointe exactement ce qu'elle gagne, ce qu'elle risque et comment sa vie va être ruinée par la grossesse non désirée de sa fille.
Voilà, alors moi, Haroun, j'ai pu le rencontrer à quelques heures, hein, de la présentation officielle du film. C'était jeudi après-midi. Et il m'a dit pourquoi il avait tenu à faire ce film pour la première fois, hein, d'ailleurs avec des personnages féminins, un film vraiment féministe.
Le Tchad, comme de nombreux pays, en fait, pas seulement en Afrique, mais à travers le monde, il y a comme un retour de quelque chose, en fait, où les droits des femmes, notamment sur ce domaine-là, sont vraiment... les gens veulent les supprimer de plus en plus. Il y a pratiquement une réaction, on va dire, au sens réactionnaire donc du terme. Et au Tchad, ça fait longtemps que le droit à l'avortement est interdit. Bien entendu, les deux religions principales, l'islam, le christianisme, s'y opposent aussi. Et dans ces conditions-là, comment voudriez-vous qu'une jeune femme de 15 ans puisse envisager une vie sexuelle, en fait, sans avoir la possibilité de disposer de son corps? Et c'est toute cette question que j'ai essayé un peu de traiter dans ce film.
Voilà, Mahamat Saleh Haroun qui montait pour la troisième fois les marches du Festival de Cannes en compétition. Son film Lingui est en lice pour la Palme d'Or. Il y a d'ailleurs une petite vidéo qui tourne sur les réseaux sociaux, Elisabeth, où on voit le président du jury, Spike Lee, qui a tenu à saluer Haroun. Et il ne le fait pas pour tous les films. Et c'est vraiment un film Lingui qui nous a émus, hein, toutes les deux.
Oui, moi ce que j'aime aussi beaucoup dans ce film, c'est que comme toujours chez Haroun, le réalisme se patine d'une forme d'abstraction, puisqu'au bout d'un moment, il n'y a plus que des femmes dans le film. Voilà, et le film fait découvrir cette société secrète, hein, comment elles partagent leurs secrets, comment elles se dépassent les unes les autres, comment elles s'entraident. En fait, on comprend que le Lingui, hein, c'est ce qu'on appellerait en Occident la sororité. Et c'est une constellation, pour la première fois dans le travail d'Haroun, un film très féministe avec une constellation de très beaux personnages féminins. Voilà, tout ça pour vous dire que c'est un film magnifique et qu'il ne faut pas le rater à sa sortie en salle en France le 8 décembre prochain.
Et en attendant, on espère qu'il sera au palmarès. On termine cette émission avec une sélection dont on parle en général moins, dont on parle peu, la sélection Cannes Classique, la section Cannes Classique de la sélection officielle. Et à Cannes Classique cette année, il y a le retour d'un film qui était sur la croisette il y a tout juste 60 ans. C'est Le 14e jour du cinéaste yougoslave Zvratko Velimirovic. Dans le 14e jour, il avait abordé de façon poétique et ironique le problème des prisons dans son pays, donc la Yougoslavie, l'ex-Yougoslavie, qui était alors une république socialiste. Et il avait ouvert la voie à une vague de films plus critiques qui avaient contribué à rendre le régime un peu plus libéral, tout en restant quand même une dictature, hein, jusqu'à l'explosion de l'Union soviétique. C'est un film qui a été restauré par les cinémathèques yougoslaves et monténégrines et dont nous parle notre correspondant Laurent Rouy.
Osuđenici koji su proveli na redovnom radu neprekidno 11 mjeseci imaju pravo na odmor od 14 dana. Uprava kazneno-popravnog doma može dozvoliti da osuđenici koriste godišnji odmor i van ustanove.
Cet extrait du film Le 14e jour, illustré de travelling filmé dans des couloirs de prison, pose le décor. L'œuvre du réalisateur yougoslave Zdravko Velimirovic compte les mésaventures de trois détenus libérés pour 14 jours dans la Yougoslavie communiste. En 1961, une telle loi existe en Suède et le Parlement yougoslave débat de son adoption. Mais le film est avant tout une critique du régime autoritaire de l'époque. Le scénariste, l'écrivain Borislav Pekic, vient de purger une peine de 5 ans pour dissidence. À la sortie du film, Velimirovic ne sait pas qu'il vient de briser un mur invisible. Il le reconnaîtra plus tard lors d'une interview conservée en archives.
C'était un film charmant, bien accepté par les spectateurs, mais qui leur a aussi fait retenir leur souffle. Attention, à l'époque on ne savait pas encore tout du goulag yougoslave, de Guli Otok et de ses souffrances. Ce n'était pas une époque facile, mais le film a été une bouffée de liberté.
Le film est projeté en avant-première en prison. Velimirovic recueille le sentiment de condamné qui tous le félicite. À Cannes en 1961, on s'étonne que le réalisateur ait pu tourner un tel film sous le régime titiste. 60 ans plus tard, les cinémathèques yougoslaves et monténégrines se sont associées pour restaurer l'œuvre. Il a d'abord fallu laver le négatif, puis le reconstruire pour pouvoir le scanner et enfin corriger les nuances image par image. Un travail supervisé par Dubravko Badalic, responsable de la digitalisation à la cinémathèque yougoslave.
La Yougoslavie était un beau pays, mais qui a connu des épisodes sombres. Le 14e jour a ouvert la voie à une vague de films critiques qui a fait évoluer le régime.
Fils de Zdravko, le cinéaste documentaire Mladen Velimirovitch s'est aussi beaucoup investi pour que le film Le 14e jour puisse retourner sur la croisette. Né au début des années 70, Mladen Velimirovitch a connu une période plus libérale de la Yougoslavie titiste.
L'avantage, c'est qu'il s'agit d'un film en noir et blanc. Les films en noir et blanc se conservent beaucoup mieux. Les films en couleur s'affadissent très vite. On nous avait dit, quand on a commencé la restauration, que le film avait une chance d'aller à Cannes. C'est gagné, on n'a pas travaillé pour rien.
Laurent Rouy, Belgrade, RFI.
On se quitte en musique avec ce titre des Sparks, When You're a French Director, avec Léo Scax à l'accordéon. Cinéma du Monde, c'est fini pour aujourd'hui. Au micro, Elisabeth Lequéré.
Et Sophie Torlotin, à la réalisation Alice Ménard et à la technique Benjamin Avayou, Victor Hull et Julien Boileau.
On salue chaleureusement Fanny Renard qui n'a pas pu venir cette année à Cannes. On se retrouve samedi prochain, même heure, même cinéma, pour tirer le bilan déjà de cette 74e édition avec des critiques de la presse internationale. D'ici là, bonne semaine et bon film à tous. Shelf over there.